Salut à tous, merci d'être si fidèles à Baleine sous Gravillon. Je viens vous cueillir une minute, pas plus, avant le début de votre épisode, pour vous proposer tout simplement de nous soutenir. Offrez-nous une minute au moins de votre temps. Vous savez qu'on est gratuit, sans pub et disponible pour tous sur toutes les applis d'écoute. Clairement, on a besoin de votre aide pour continuer à vivre. Et il y a plusieurs moyens simples de nous aider. 1. Vous pouvez nous faire un don unique ou récurrent, quelques balles par mois, quelques euros par mois, sur les liens indiqués dans le descriptif de cet épisode, sur HelloAsso ou sur Tipeee notamment, il y en a d'autres. 2. Vous pouvez installer le moteur de recherche Lilo au lieu d'utiliser Google qui vous exploite, vous le savez. Et le résultat, c'est que chaque recherche génère ce qu'on appelle des gouttes et pour nous, c'est des petits sous. Voilà, pour vous en plus, c'est gratuit, donc c'est pas difficile. Encore une fois, tous les détails sont dans le descriptif de cet épisode. Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG, on propose maintenant des fresques de la biodiversité, on propose des conférences, ben, parlez-en dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre boîte quoi. Et évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Baleine sous Gravillon vous raconter le vivant, tout simplement. 4. On peut aussi créer vos podcasts ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres. On fait des formations pour ça et bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus. 5. On cherche un partenaire pour tout l'écosystème de Baleine sous Gravillon. Et il y a différentes modalités. On en cherche un pour l'ensemble, on peut en prendre un pour un podcast en particulier, ou ce qu'on fait de plus en plus, on peut en prendre un pour une série d'émissions. Évidemment, c'est négatif, c'est moins cher à chaque fois. Moins bon marché, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas si cher. Donc voilà, vous pouvez devenir coproducteur de ce qu'on fait. En tout cas, ben, voilà, prenez conscience que ce qu'on fait est certes gratuit, mais on a besoin de vous pour continuer à exister. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça sur mes fonds. Et là, ben, évidemment, je suis obligé de faire autre chose hein, pour vivre, sachant que France Culture ne suffit pas à me faire vivre. Voilà. Pour nous joindre, c'est simple, contact@baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Guillaume.
Salut Marc.
Je suis ravi de te retrouver, on est là pour parler des champignons. On a vu que les champignons, selon les chercheurs, sont légèrement plus proches des animaux que des végétaux, mais ils sont différents, ils ont leur propre règne. Les champignons, ils se sont baladés, on ne savait pas où les classer finalement. Et on a vu avec toi qu'ils avaient en effet des caractéristiques qui ressemblent aux végétaux, mais ils en ont d'autres qui ressemblent aux animaux. Tu nous en as déjà un peu parlé et tu nous en reparleras. Mais en gros, la toute première idée de classer les champignons dans un règne à part, eh ben, elle nous vient d'un certain Noël Martin Joseph de Necker, c'est le nom du monsieur, et il est français, hein, Cocorico. Et cette idée-là, elle est arrivée en 1783, dans un traité sur la mycétologie, ça s'appelait à l'époque. Ce n'est qu'en 1959 qu'un États-Unien qui s'appelle Robert Whittaker, eh ben, lui, il a dit, il les a classés dans un règne à part, carrément celui des mycotas, celui des mycètes, celui des fungi, sur la base de plusieurs caractères particuliers, comme l'absence de chlorophylle et d'amidon, qui du coup les range plus du tout dans les plantes. Guillaume, ce que je voudrais voir avec toi dans cet épisode, ce sont les différents embranchements, car il s'agit bien d'embranchements et non pas de familles. Les grands types, finalement, de champignons, toi tu en distingues 4. Et peut-être on pourrait commencer par le commencement, par ceux qui précédaient sans doute l'existence des autres, qui sont les chytridiomycètes. Est-ce que tu peux nous dérouler les différents embranchements de champignons?
Alors c'est très intéressant parce qu'en fait les embranchements des champignons sont pas si reliés que ça avec leur écologie. C'est-à-dire qu'en fait une même famille de champignons peut avoir des modes de vie complètement différents. Et donc chez les chytrides par exemple, il y a ceux qui vivent complètement libres et puis il y a ceux qui vont être par exemple parasites. Donc les chytrides, ce sont ces ancêtres des champignons, qui sont donc inféodés au milieu aqueux en général. C'est parmi les seuls champignons qu'on a référencés, par exemple, dans les glaces arctiques.
Je t'interromps tout de suite pour dire, et ne perds surtout pas ton fil, pour dire que je reconnais là cette maladie chytridiomycète, et bien c'est l'un d'eux qui affecte les amphibiens dans le monde entier. Et les chytridiomycètes sont des zoospores à flagelles. Techniquement, ça veut juste dire que leur spore a besoin d'eau. Et c'est pour ça qu'ils embêtent et qu'ils anéantissent les populations d'amphibiens. Pardon, je t'ai interrompu. C'était juste pour signaler cette fameuse chytridiomycose qui est due à ces champignons et qui est célébrissime en biologie, malheureusement, qui met à mal toutes les populations d'amphibiens, y compris en France.
Oui, effectivement, et ça c'est à mettre en parallèle effectivement avec le développement des champignons qui se fait notamment dans des milieux avec de l'eau et généralement également des milieux froids. Et d'ailleurs, en fait, on a un petit peu, nous en tant que mammifères, hérité de la planète après la dernière extinction de masse, celle des dinosaures, il y a 65 millions d'années si je me trompe pas. Parce qu'en fait, les dinosaures étaient des animaux à sang froid et que les descendants des dinosaures, la plupart, étaient également à sang froid, mais que nous, les mammifères, étions à sang chaud. Et notre sang chaud, notre organisme étant chaud, les champignons ont eu beaucoup beaucoup plus de mal à nous infester. Et donc on est encore aujourd'hui préservé de la plupart des pathogènes fongiques de par le fait que notre température corporelle est élevée, ce qui n'est pas le cas donc par exemple des amphibiens, et ce qui n'est pas le cas également de certaines espèces qui vont hiverner et qui donc vont avoir la température corporelle qui va baisser. Et donc il y a actuellement une épidémie très importante chez les chauves-souris en Amérique, qui sont disséminées par une maladie fongique qu'on appelle le museau blanc. Et donc quand elles rentrent en hibernation, leur température corporelle diminue et ça les rend susceptibles justement à une attaque de pathogène qui va finir par les tuer. Et la chose intéressante, c'est que si on les réveille et que leur température corporelle réaugmente, eh bien on arrive comme ça à les sauver.
Ouais, sauf qu'on a vu dans nos émissions chauves-souris à Baleine sous Gravillon que quand tu réveilles une chauve-souris en hibernation, malheureusement, ça consomme tellement de calories, ça consomme tellement de cette énergie qu'elle n'a pas en quantité illimitée, que un réveil peut être synonyme de mort, malheureusement, pour les chauves-souris. Donc, effectivement, moi, je suis très inquiet pour ces chauves-souris états-uniennes. D'accord, donc ça, c'est pour les chytridiomycètes. Donc on en est à raconter les quelques différents embranchements de champignons, hein, pour se faire une idée du tableau de famille, finalement, grâce à toi. Donc, chytridiomycètes, ce sont ces zoospores à flagelles. Donc, on les imagine tout petits. Pour le coup, c'est pas du tout. Bah, d'ailleurs, ça pourrait être un lien. C'est pas du tout comme nos basidiomycètes, qui est un autre embranchement. Et là, c'est les champignons de papa que tout le monde connaît. C'est les fameux champignons à chapeau. Juste pour faire une différence.
Oui, tout à fait. Donc, basidiomycètes, ce sont les champignons tels qu'on se les représente de manière la plus classique. Ce sont ces champignons à chapeau. Donc, on va retrouver dedans les bolets, les chanterelles. Et donc, ce sont des champignons qui vont former ce genre de chapeau, qui font partie de ce qu'on appelle les œufs fongi, les vrais champignons. Et donc, c'est un embranchement, enfin, c'est une catégorie qui est très très commune chez les champignons. Et en fait, on appelle ça des basidiomycètes parce que l'organe qui va produire le spore s'appelle un baside, et ce qui va les distinguer notamment des ascomycètes, où les ascomycètes, en fait, les spores sont créés dans des espèces de canons qu'on appelle donc des ascs. Et d'ailleurs, quand le spore va être propulsé de ce canon, il va subir une force de gravité qui est équivalent à, je crois, 20 000 ou 25 000 G. C'est des forces absolument colossales, puisque même Thomas Pesquet, pour aller sur la station spatiale internationale, n'a subi que 7G au maximum, et un pilote d'avion de chasse n'en subit en moyenne que 5. Donc 25 000 G, c'est ce qu'on connaît de plus fort dans le monde de la biologie, en fait. Donc voilà, ces ascs, pour les ascomycètes, qui vont éjecter les spores. A contrario, chez les basidiomycètes, pardon, ça va être des basides, d'autres structures qui vont être responsables de l'éjection des spores.
Ouais, alors je voudrais pas trop compliquer ce qu'on est en train de dire, hein. Alors là, on est en train de parcourir l'album de famille des champignons. Tu parlais précédemment des chytridiomycètes, donc c'est un nom compliqué, mais j'avais oublié de dire, comme je fais d'habitude, que la chytride, l'étymologie, ça veut dire petit pot. Et donc, il n'y a pas que des tout petits champignons chez les chytridiomycètes, il y en a aussi qui sont visibles évidemment à l'œil nu, et ils ont une forme de petit pot, d'où leur nom. Et les basidiomycètes, tu l'as dit, ce sont tous les champignons classiques, ceux que tout le monde se figure finalement. J'imagine que l'amanite phalloïde, le bolet Satan, le bolet Nanani, Pleurote et compagnie, ce sont sans doute des basidiomycètes, n'est-ce pas?
Tout à fait. Les seuls représentants autres qui vont faire des champignons macroscopiques, ça va être les ascomycètes, dont font partie par exemple la truffe ou la morille, et les pézises également, qui sont des petits champignons qui ressemblent à des oreilles. Même l'oreille de Judas, hein, ce champignon noir utilisé dans la cuisine asiatique, tout ça fait partie de ces ascomycètes qui forment du coup des champignons qui n'ont pas un vrai chapeau la plupart du temps. Ils n'ont pas vraiment un pied, ils n'ont pas vraiment un chapeau.
Guillaume, alors on va enchaîner sur les ascomycètes puisque tu en parles. Les ascomycètes, donc ça vient d'asque. Tu as dit que c'était quelque chose en forme de canon qui expulse, comment dire, les spores extrêmement rapidement et puissamment. J'ai lu que les ascomycètes regroupait le plus grand nombre d'espèces, qu'il y en avait pas loin de 70 000 sur les 150 000 en tout que comptent les fungi. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi, je vois que, en fait, ce sont des célébrités, les ascomycètes, car ce sont toutes les levures de nos amis boulangers, celles des brasseurs, de ceux qui vinifient le vin. Enfin, ce sont la pénicilline, tout ce qui est, tous les pénicilliums, toutes les moisissures de fromage et d'antibiotiques. Et tu l'as dit, tu l'as bien dit, les morilles, les truffes, les pésils, c'est ça les ascomycètes.
Oui, tout à fait. Et alors après, ce qui va être intéressant aussi à rajouter au tableau de famille, ce sont les lichens. Donc les lichens qui sont cette association symbiotique entre une algue et un champignon. Et la plupart des lichens, en fait, forment des relations symbiotiques avec des œufs fongi, des vrais champignons, dont une grande partie sont effectivement des ascomycètes et des basidiomycètes. Également, c'est intéressant cette catégorie des lichens, parce que on pensait avant que c'était du un pour un, c'est-à-dire qu'il y avait un champignon pour une algue. Et en fait, plus on étudie les lichens, plus on se rend compte qu'il y a de partenaires qui sont inclus dans cette symbiose. Et donc aujourd'hui, rares sont les lichens qui sont effectivement composés d'une algue et d'un champignon. La plupart du temps, ça va être trois champignons, une algue. Et dans ces champignons, il va y avoir un ascomycète, un basidiomycète, peut-être même une levure. Et puis également, il va y avoir des populations bactériennes. Donc en fait, un lichen, c'est un petit peu un starter pack de la vie. Et donc, il y a cette hypothèse actuellement qu'on appelle la panspermie en français. Moi, je le connais plutôt sous le nom de panspermia, qui est le terme anglais. Et cette hypothèse, en fait, stipule que les lichens ayant des caractéristiques d'extrémophilie, qui sont capables de résister à des environnements extrêmes, avec par exemple des radiations cosmiques, avec une sécheresse extrême, avec des températures extrêmes, eh bien ces lichens pourraient en fait se retrouver comme ça sur un astéroïde, et puis l'astéroïde qui frapperait accidentellement une planète susceptible de porter la vie, eh bien se développerait ainsi la vie, et ce serait en fait une forme de, si je puis dire, de spermatozoïde qui viendrait féconder un ovule.
Cher Guillaume, la star dont je parlais tout à l'heure, celui qui s'empare, qui détourne, qui pirate le système nerveux de certains insectes, comme des fourmis par exemple, mais d'autres aussi, le fameux cordyceps hein, qui a inspiré le fameux scénario de The Last of Us dont j'arrête pas de parler, c'est vrai, j'ai bien aimé cette série. Le fameux cordyceps est un ascomycète, hein, donc c'est une autre célébrité, et beaucoup de moisissures et aussi de phytopathogènes, c'est-à-dire de ces plantes qui posent des problèmes dans les cultures. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples célèbres d'ascomycètes qui empêchent nos agriculteurs de tourner en rond?
Alors, je pense, je suis pas certain. Il y a toutes les rouilles, je pense qu'il y a beaucoup de rouilles qui sont issues des ascomycètes. Il y a également, à mon avis, ce qu'on appelle en japonais le Himotibio. C'est une maladie, en fait, qui touche le riz. Cette maladie, en fait, décime des récoltes d'un équivalent qui pourrait nourrir environ 40 millions de personnes chaque année. Donc, c'est un pathogène très, très important pour notre souveraineté alimentaire. Et donc, ça s'appelle le rice blast fungus en anglais. C'est une maladie du coup qui contamine la culture du riz. Et donc, effectivement, il y a pas mal de pathogènes qui font partie des ascomycètes.
Cher Guillaume, cet épisode il est dédié à la présentation des différents embranchements, rien de moins, du règne des mycètes, des fungi, de ce qu'on appelle improprement les champignons. Donc on a vu, je fais un petit récap, on a parlé des chytridiomycètes, là, ceux qui posent des problèmes à nos amphibiens. On a parlé des basidios. Les basidios, ben, c'est les champignons que tout le monde se représente avec un beau chapeau, hein, la fameuse partie émergée de l'iceberg, la partie visible, hein, mais on sait que les champignons à 99,99999%, c'est le mycélium qui est en dessous, hein. C'est une des plus grandes biomasses terrestres. Hein. C'est pas la plus grande. La plus grande, c'est les végétaux et les bactéries. Mais il me semble que les champignons n'arrivent pas loin derrière en termes juste de poids. Donc bref, chytridio, basidio, asco. Et il est temps de finir cet épisode avec les gloméraux. Les gloméromycètes, tu fais un grand oui de la tête. On va pas les oublier. Alors, qui sont ceux-là? Quel est cet embranchement?
C'est un embranchement de champignons, en fait, qu'on ne voit pas, qui sont symbiotiques avec les plantes. Et donc 95% des plantes en fait forment des partenariats symbiotiques avec ces fameux gloméromycètes. Et donc là encore, le terme gloméromycète vient de leur moyen de reproduction, parce qu'en fait ce sont des champignons qui vont faire des petits sacs de spores qui vont rester sous terre. Et puis lorsque ces spores vont être mangés, vont être bousculés, etc., ils vont se répandre comme ça dans le sol. Et puis quand ils vont germer, ils vont tout de suite trouver un partenaire végétal et former cette fameuse symbiose. Donc il n'y a pas une diversité si grande que ça chez les gloméromycètes, mais 95% des plantes font des partenariats symbiotiques avec les gloméromycètes, et donc c'est une espèce de champignon très très intéressante, très très importante en termes de volume, effectivement, sur la planète. Et notamment, en fait, pour le stockage du carbone, c'est une des espèces qui sont très intéressantes parce que ils forment une protéine qu'on appelle la glomaline, qui est cette gaine qu'on va retrouver sur le réseau mycélium. Et cette glomaline-là, en fait, est très récalcitrante à la dégradation par les bactéries. Et donc, elle va rester dans le sol. Et étant donné que la glomaline est une molécule organique faite de carbone, en fait, ça va représenter un stockage très très important de carbone, au point que aujourd'hui, en fait, on a fait des études qui semblent dire que 36% de nos émissions de gaz à effet de serre sont en réalité stockées par l'activité des champignons mycorhiziens, dont les représentants les plus emblématiques sont effectivement ces gloméromycètes.
Guillaume, on va finir cet épisode par un dernier embranchement, c'est celui qu'on connaît le moins. Il s'appelle les deutéromycètes et leur surnom, c'est les champignons imparfaits. En fait, ce sont des champignons à hyphes. Alors, l'hyphe, rappelle-nous ce qu'est l'hyphe chez les champignons tant qu'on y est.
Oui, alors en fait, le mycélium est composé d'hyphes et les hyphes, en fait, ce sont des cellules tubulaires très très petites, 5 fois plus fines que nos cheveux et qui vont comme ça, en fait, former cette ramification. Et donc, voilà un petit peu ce que sont les hyphes et leur fonction est après extrêmement intéressante également.
On n'a toujours pas dit les mots de base pour décrire un champignon, mais déjà on a dit que dans la plupart des cas, les champignons, ce qu'on voit dans la forêt, là, ce que ramassent les promeneurs, c'est rarissime et c'est très peu, c'est juste l'appareil reproducteur du champignon. Ce qui se passe, c'est ce qu'il y a dans le sol, c'est en dessous, et ça, on vient de le dire, c'est les hyphes. Mais peut-être qu'on pourrait quand même dire que la tige du champignon ne s'appelle pas la tige, dans le cas où elle existe, hein, bien sûr, ça s'appelle le stipe. Enfin, parce qu'on parle pas de tronc ni de tige dans ces cas-là, mais ça s'appelle le stipe, un peu comme pour une algue, si je dis pas de bêtises. Est-ce que le chapeau a un nom spécifique?
Alors en fait, la structure sexuelle au global s'appelle le carpophore, le sporocarpe. Il y a plusieurs noms comme ça qui sont donnés donc à cette structure sexuelle dans son ensemble. Le stipe, effectivement, c'est un nom qui peut être utilisé également chez les végétaux. Je crois que le pseudotron des bananiers s'appelle aussi un stipe,
oui,
dans certains cas.
Les monocotylédones, exact. Non pas de tronc, mais un stipe. Ouais. Donc ça peut être très grand, un stipe. Mais effectivement, c'est pas un tronc dans la mesure où il n'y a pas d'écorce, ça fonctionne pas pareil.
Exactement, ouais. Un stipe, c'est un terme assez générique dans la biologie. Hein. Effectivement, ça m'étonnerait pas qu'on l'utilise également chez les algues. Je suis pas certain.
Ouais, très bien. Bon, pour en finir avec nos deutéromycètes, hein, il y a une histoire de deux. Bah, c'est ceux qu'on connaît le moins. On sait pas bien comment ils se reproduisent. Ce sont des champignons à hyphes septés et qui se multiplient de façon non sexuée. On dit aussi végétative. Voilà, c'est un groupe polyphylétique, hein, donc c'est pas un taxon regroupé scientifiquement. Et en gros, j'ai l'impression qu'on y a mis beaucoup de champignons qu'on connaissait pas. Mais il y a quand même des genres qui sont très connus, dont tu parles dans tes confs. Je reconnais Fusarium et Aspergillus parmi eux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents embranchements qui composent ce règne. Et c'est pas peu de le dire, c'est pas trop de le dire. Des mycètes, des fungi, ce que le grand public appelle les champignons, qui est un joli nom, hein, on l'a vu. Je rappelle pour finir l'épisode qu'il y a 150 000 espèces de champignons connues, mais il y en a sans doute beaucoup plus de 10 millions. Tout reste à découvrir en la matière. On en découvre 1500 espèces par an à peu près. Je vois que tu fais oui de la tête. Donc voilà. Guillaume, je te retrouve avec grand plaisir très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
Salut Marc.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.